Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant.
Bon alors, ça va bien ou bien ? Que tu travailles, que tu télétravailles, que tu t'ennuies, que ton seul échappatoire au huis clos soit de poser ton casque sur tes oreilles, j'espère te proposer quelques minutes d'évasion. Pour cette nouvelle conversation, je suis en compagnie d'Andrei Bernik, un jeune architecte au délicieux accent slovène qui est membre de l'agence Fieldwork. Nous avons parlé de la ville et en particulier de la ville de demain. Nous avons enregistré dans un recoin d'un salon professionnel consacré aux questions d'eau et d'énergie. Alors cette précision a pour unique but de justifier le bruit de fond que tu ne vas pas tarder à découvrir. Andrei compare la ville à un désert pour la réinscrire très vite dans des cycles naturels plus grands qu'elle. Il me parle de lâcher prise, d'illusion du contrôle, d'égalité, du rôle de l'architecte et des arbres. Et ce n'est qu'à la toute fin de notre échange que l'expression « Smart City » est mise sur la table. Pas mal, non ? Il est temps, je me tais et bonne écoute. Bonjour Andrei.
Bonjour.
Merci à toi de venir discuter dans ce podcast où nous allons parler du futur, évidemment. Et alors, tu es architecte et donc ensemble, on a choisi cette notion de la ville de demain pour cette discussion, pour cette conversation. Et c'est vrai que la question de la ville, elle sera extrêmement importante. Alors, elle est extrêmement importante aujourd'hui, elle le sera encore plus en 2050, parce qu'en 2050, on sera 9 milliards d'habitants sur la planète, oui. A priori, avec plus de 70% qui habiteront en ville. Oui. Donc, le milieu urbain, il va être soumis à plein de tensions. Je pense aussi aux enjeux climatiques, parce qu'on sait déjà qu'entre être à la campagne ou en ville, l'impression de chaleur, elle est encore plus forte en ville. Quand, dans un monde où il fera plus 2, plus 3 degrés, donc il y aura ces questions-là seront extrêmement importantes.
Mais ce n'est pas qu'une impression de chaleur qui est plus forte en ville. En réalité, il fait plus chaud en ville. Ouais. Parce qu'en plus de cette chaleur qui est plus intense aujourd'hui parce qu'on a changé le climat, hein, parce que c'est un peu nous qui avons qui sommes à la source de ces problèmes que nous avons avec la chaleur, se rajoute en ville une autre problématique qui est l'îlot de chaleur urbain, qui n'est pas forcément complètement lié avec le changement climatique, c'est lié à la façon que nous avons de construire la ville ou de faire la ville. Peut-être encore aujourd'hui, on connaît le phénomène depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, mais
on ne l'a pas mis en priorité, en tout cas des enjeux pour construire, pour penser la ville.
Pour réfléchir, pour construire la ville autrement, en fait. Et la ville est plus chaude par rapport à la campagne parce que la ville est construite des matériaux qui emmagasinent la chaleur pendant la journée, après ils vont les mettre pendant la nuit. Et à la campagne, ça ne se fait pas parce que à la campagne, on a l'humidité qui est emmagasinée dans le sol et cette humidité empêche le stockage de chaleur parce que l'énergie solaire est consommée pour l'évaporation d'eau, ce qui n'est pas le cas en ville. Parce que si on ferme les yeux un peu, on s'imagine qu'est-ce qu'on a en termes de l'eau en ville, c'est en réalité on vit dans un désert parce qu'il y a la pluie qui tombe. Elle est tout de suite envoyée dans les caniveaux et elle repart quelque part. On ne veut pas trop se poser la question où elle va. Mais en réalité, donc, tout est très sec. Et donc, finalement, c'est là vraiment la source du problème qu'on a en ville. On a interrompu le cycle d'eau.
Oui, on a sorti, en fait, l'espace urbain de ce grand cycle.
Exactement, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il faut retrouver une façon comment réintégrer de l'eau en ville pour pallier à ces problématiques de chaleur. Parce que finalement, l'eau, c'est un des rares moyens par lequel on arrive à faire baisser la température sans consommer d'énergie supplémentaire.
Alors justement, quand je te dis la ville de demain et que tu penses l'horizon 2050, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qu'elle aurait de différente, la ville ? Alors je dis la ville en sachant que la ville n'existe pas. Elle est multiple selon les continents, selon les conditions, les populations, mais voilà.
Oui. Mais après, chacun a une image de ce que c'est la ville. Et c'est lié à une densité de population dans un espace restreint, réduit. Le reste de l'espace est précieux, en fait. On ne devrait pas étaler la ville plus qu'elle est déjà étalée. C'est important qu'elle soit dense. En tout cas, moi, j'aime bien la ville dense et je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est trouver de solutions, comment rendre cette ville un peu plus... pas qu'elle soit à l'opposition de cycles naturels, mais qu'elle fait avec les cycles naturels. Et ne pas la considérer uniquement comme un lieu qui est totalement qui est destiné que aux humains. Il faut que la nature, mais j'aime pas trop utiliser le mot nature de cette façon, soit totalement intégrée dans l'espace urbain. Parce que, enfin, pourquoi j'aime pas trop dire la nature, parce que c'est comme si c'était une opposition en fait entre les humains et la nature, ou l'urbain et la nature, mais c'est pas ça. En réalité, tout est nature, même la ville en elle-même, elle fait partie de la nature, ou comme les humains font partie de la nature, mais il faut comprendre quels sont les cycles naturels physiques qu'on connaît, des phénomènes, et plutôt faire avec au lieu de faire contre.
Donc ça veut dire que la ville en 2050, il s'agit de la remettre, de la penser vraiment comme un écosystème, et de trouver un rééquilibrage justement de la part, on va dire, minérale et humaine avec les autres dimensions d'un écosystème qui sont le soleil, l'eau, la terre, le sol aussi.
Oui, le sol, la végétation. On parle depuis longtemps de la végétalisation et c'est très important. Mais il faut voir ça dans un contexte plus complexe que ça peut se faire parfois. Il ne va pas suffire de poser des pots de fleurs et de dire maintenant on a végétalisé. Il faut rajouter des plantes, pas parce qu'on les aime, parce qu'on les trouve jolies ou parce que ils ont une valeur romantique, si on veut, mais parce qu'elles sont importantes. C'est de l'infrastructure nécessaire en ville aujourd'hui. Planter des arbres nous aidera à lutter contre les îlots de chaleur urbains, par exemple.
Ouais. Alors, avant de peut-être rentrer encore plus dans les détails, un truc qui m'interpelle, c'est que tu parles de la nature comme la pensée comme une infrastructure qui fait partie de la ville. Est-ce que, justement, de la pensée comme une infrastructure, c'est pas réduire cette nature, entre guillemets, à sa fonctionnalité, en fait? Et c'est aussi, là, peut-être, lui couper un de ses apports. Ne pas penser la nature que comme fonction, mais comme partie intégrante. Je ne sais pas si tu vois la nuance.
Oui, je pense que je comprends. En fait, je trouve que ce qui est intéressant avec les cycles naturels ou la nature comme quelque chose qui est peut-être un peu détaché de la raison ou de ce qu'on arrive à contrôler, c'est exactement cet aspect surprenant quelque part ou qu'on n'arrive pas à contrôler. Vraiment, un écosystème... Et on a essayé, dans les années 70 déjà, faire des études comment se développe une prairie comme ça aux États-Unis. Et on est allé chercher des compter par mètre carré combien il y a des insectes, combien il y a des plantes, combien il y a des brins d'herbe. Et après, on a tout mis dans un ordinateur, c'est le début des ordinateurs, comme ça, pour simuler ce écosystème comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on n'arrivera jamais à comprendre jusqu'au bout tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est là où ça devient vraiment intéressant, en fait, que on devrait un peu lâcher prise de se dire on doit tout contrôler, on doit tout pouvoir jusqu'au bout toutes les conséquences de toutes nos actions. Il faut accepter le fait que on vit dans un écosystème qui est très complexe et il faut qu'on trouve un moyen comment s'insérer dedans. C'est là où ça devient un peu utilitaire pour que ça soit bien pour nous aussi. C'est normal, si on aménage le monde, on l'aménage pour nos besoins. Donc il faut aussi assumer cette part humaine. On ne va pas commencer à dire « Ah non, maintenant on va plus se préoccuper des plantes et on va un peu oublier nos propres besoins ». Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faut accepter que les plantes, elles font leur vie et elles trouvent leur niche dans les lieux concrets.
Et dans ce que tu dis, je vois en quoi ça dépasse l'idée de fonctionnalité de la nature. C'est que finalement, tu dis il faut qu'elle soit là, mais en la laissant vivre sa vie, un espèce de réensauvagement de la ville où on la laisse là et on la laisse interagir. On l'éradique pas, en tout cas. On arrête ce principe des mauvaises herbes.
Exactement. Non, mais exactement. C'est parce que c'est quelque part cause perdue. C'est une illusion de se dire qu'on va arriver à contrôler ce qui se passe et de ne pas avoir des rats. À Paris, la population des rats est supérieure à la population humaine. Et c'est vrai pour beaucoup de villes, on doit accepter. On l'accepte. Parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. Comme je suis architecte, en fait, on fait des projets. On a des idées du départ et après, on essaye de les mettre en pratique de façon très concrète. Mais j'aime bien laisser une part ouverte de cette évolution à se dire, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est un peu, peut-être on a quelque chose aussi à apprendre des personnes qui développent le logiciel. Comment ça fonctionne, en fait? C'est que on n'attend pas d'avoir la version finale pour toujours terminer dans le logiciel avant de le mettre sur le marché. Non, on fait la première itération, on met ça sur le marché, c'est utilisé pendant un certain temps, après il y a une nouvelle version et encore une nouvelle version. C'est qu'on n'est pas en train de se dire c'est figé dans le temps, on le fait, c'est terminé et après on va passer à autre chose. Tout est en train d'évoluer tout le temps. Et l'architecture ou la construction de la ville, c'est un peu ça aussi si on le regarde avec un œil un peu plus long terme. On a construit des bâtiments où on avait le premier étage noble avec la famille de bourgeoises qui vivaient là-bas. Et au sixième étage, il y avait des chambres de bonne. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas en fait. Tout ça a été bousculé, échangé. On a des appartements parfois au dernier étage, les plus luxueux. Et ceux qui sont au premier étage sont peut-être plus exposés à des inconvénients de la ville d'aujourd'hui. Donc avoir une idée comme ça à très long terme et penser qu'on arrive à comprendre jusqu'au bout comment des choses vont évoluer, on ne peut pas le faire. Il faut accepter peut-être que ce n'est pas possible. Et ça nous libère quelque part, ça libère
le champ des possibles.
Le champ des possibles,
oui. Alors, il y a quelque chose que tu dis qui m'intéresse beaucoup, c'est sur justement laisser advenir les choses. Et je pense à l'espace public et à son occupation. Parce que dans les villes aujourd'hui, on voit dans les grandes villes, par exemple, du mobilier urbain anti-SDF. On voit des choses comme ça. C'est extrême, mais ça existe. Ouais. Quand on lit ou qu'on voit des films de science-fiction, il y a aussi cette question qui revient souvent, c'est de cet espace public qui ne peut plus être occupé. On doit le traverser, on doit avoir une raison si on est dans l'espace public, c'est qu'on doit aller de chez soi au travail, des choses comme ça. Oui. Et comment toi tu penses l'avenir de cette occupation par les gens de l'espace public et qui donne des fonctions à l'espace public qui n'étaient pas prévues au préalable?
Oui, par rapport à l'espace public, je pense qu'on a beaucoup de chance, ou c'est quelque chose qui a une grande valeur ici en Europe ou dans le monde occidental, mais plus particulièrement encore en Europe, cette tradition de passer du temps dehors, de vraiment utiliser les espaces publics et qu'ils soient plutôt dédiés aux piétons, que le piéton ou la est un peu au centre de la préoccupation dans l'aménagement d'espaces publics. Donc en Europe, on a gardé en fait cet attachement à l'espace public et que je trouve qu'il est très important parce qu'il y a une partie de la vie sociale nécessaire qui se passe dans l'espace public. C'est vraiment une valeur très importante. Après, la question était sur l'usage. Encore une fois, dans ma réflexion autour de l'architecture, je ne m'intéresse pas forcément à l'usage d'un espace que nous sommes en train de dessiner au bureau. On se dit, on doit rendre des choses possibles. Et on doit laisser aux personnes qui vont venir dans ces lieux-là de s'en approprier à leur façon. Et de organiser des événements qu'on n'a peut-être pas prévus, d'avoir simplement la possibilité de faire des choses là, et c'est pas à nous de décider de quelle façon ils doivent utiliser cet espace. Et donc finalement, le dessin ou le design de ces espaces publics ne peut pas être la conséquence d'une fonction. Ce qui a aussi été une tradition en architecture pendant le XXe siècle, comme ça, c'était le fonctionnalisme, on dessinait en fonction de l'utilisation des espaces. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est se poser d'autres questions et chercher d'autres rentrées par lesquelles on pourrait commencer à avoir une réflexion architecturale. Et c'est notamment des questions autour de l'environnement et l'adaptation au changement climatique, qui c'est un champ que les architectes n'ont pas beaucoup exploité jusqu'à maintenant.
Alors, je voudrais revenir sur cette question des fonctions de la ville, parce que moi, j'entends bien la vision que tu portes, mais j'ai encore beaucoup l'impression qu'en termes d'aménagement du territoire, la ville qu'on construit aujourd'hui, c'est la ville de demain. On est déjà en train de la bâtir, parce que les aménagements, ils sont sur le temps long. Et j'ai l'impression que dans les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, on réfléchit encore beaucoup en fonction. La fonction commerciale est ici, la fonction résidentielle est là, etc. Et qu'on cloisonne ces espaces et donc qu'on limite en fait le champ où des espaces peuvent d'un coup devenir multifonctionnels. Je pense aussi dans les villes, les espaces de friche, ça peut être, je pense à un exemple à Paris, je sais pas si tu as connu ça, le Bois d'Ormois, qui était une zone en fait, je sais plus de qui elle était, une propriété de la ville, il devait y avoir un programme d'habitat social, et finalement cette zone, elle a été occupée par les habitants du quartier, c'est arboré, etc. Ils ont, comme tu dis, créé des usages. Je pense aussi à un autre exemple à Nantes, où une ancienne friche, où les gens du quartier avaient plein d'occupations d'un espace en y faisant plein de choses, et puis la ville, pensant bien faire, réaménage ce lieu en décidant que le cheminement faudra marcher ici pour rejoindre cette terrasse, etc. Et donc on est encore beaucoup dans une dictature en fait de la fonction de chaque espace.
Oui. C'est clair que l'intégration de la population hein, au niveau local est un thème en architecture très important qui a souvent été mis à l'écart auparavant et que les décisions se sont prises comme ça top-down et après on était surpris pourquoi les personnes qui étaient censées profiter de ces espaces n'arrivaient pas à s'en approprier parce que ça ne correspondait pas à leurs besoins ou à ce qu'ils cherchaient. Aujourd'hui, on fait autrement, hein. Intégrer depuis le départ les personnes concernées. Et donc, on parle de la co-construction et il y a beaucoup de mots qui sont utilisés parfois aussi dans un sens un petit peu qui pour moi peut être parfois un petit peu dérangeant en fait parce que ça peut devenir aussi un peu une caution. On parle de l'intégration de la population mais sans le faire vraiment, que ce n'est pas uniquement la participation pour faire...
C'est pas juste donner un avis par exemple. Oui. Parce que quand des fois il peut y avoir des projets qui sont à la virgule près quasiment finis, en fait la participation ça va être changer la virgule de place.
Oui, oui, et c'est là, déjà un peu prévu. Ah oui, ben là on va laisser un peu un champ de possible pour la participation, mais personne ne sortira de entre ces deux lignes que nous avons fixées au départ. Je trouve pas ça très intéressant et pas très honnête en fait envers les personnes qu'on demande de participer. Parce que pour moi la participation là où elle est intéressante, c'est là où vraiment on donne la liberté aux personnes qui participent et pas de les contraindre dans une petite case. Et quelque part, c'est un peu paternaliste parfois aussi de leur dire « Ah bah, vous pouvez décider sur trois bancs, mais tout le reste, pas vraiment. » Dans les projets qu'on fait, nous, on assume vraiment quelque part une partie que c'est de notre expertise et qu'on partage très volontairement d'une façon très didactique. On trouve très important de partager les raisons pourquoi on a fait certains choix par rapport aux autres et on peut insister longtemps et avoir beaucoup de patience pour transmettre des idées. Pourquoi c'est important de faire ça? Et c'est pas parce que nous, ça nous plaît, c'est parce qu'on a des vrais arguments derrière. Et après, très honnêtement, il y a aussi une partie où on dit il y a un champ sur lequel on peut intervenir tous ensemble. Par exemple, on fait un projet en ce moment où on fait une plantation d'arbres avec un sol en dur et c'est lisière d'une tierce forêt. Parce que tu vois, aujourd'hui, on fait la lisière. La forêt viendra jusqu'à le 2050. Et en tout cas, dans ce projet-là, il s'agit vraiment d'une recherche scientifique hein, parce qu'on travaille avec les chercheurs et de Météo France et de l'Université Paris Diderot et aussi des bureaux d'études éco-sustain et écologues qui sont des ingénieurs forestiers. Donc il y a vraiment quelque chose de... une vraie recherche scientifique qu'il y a derrière. Comment planter cette forêt en ville pour que ça fonctionne vraiment? On fait ça et une fois que cette partie sera terminée, après, en termes d'aménagement, c'est là où on organisera des workshops avec les habitants autour pour construire le mobilier urbain. Il y a toute la flexibilité de faire ce qu'on veut parce qu'en réalité, on crée juste un espace qui rend possible tout type d'usage pour les piétons. Et donc finalement, les personnes qui vont participer à cet aménagement final, ils auront la possibilité de construire le mobilier dans le... si tu veux, le style qui leur plaît et de le poser là où ils considèrent qu'il devrait être aujourd'hui et peut-être demain, quelqu'un va vouloir le déplacer. Donc,
tu as utilisé le mot flexibilité. Est-ce que justement, ça ne pourrait pas être une caractéristique de la ville de demain? Flexibilité, capacité d'adaptation et même réversibilité aussi peut-être pour que la ville, on la pense... comme étant...
pas terminée, peut-être.
Voilà, c'est ça, pas terminée. Qu'elle soit conçue pour toujours avancer, pour
c'est
changer.
Peut-être qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, par rapport au logiciel, en fait, on fait des versions.
C'est ça.
Ouais. On fait une version d'une place, en fait. On fait une version 2019. Le temps n'est pas le même, hein. Enfin, on ne va pas refaire une place tous les ans ou tous les six mois comme font les logiciels. Mais aujourd'hui, c'est les questions qu'on a, les réponses qu'on peut donner aujourd'hui à la problématique d'un aménagement, par exemple, bah, c'est ça. Et dans un temps futur, bah, on va changer, on va modifier, on va pas tout refaire, hein. on va adapter la solution qu'on propose aujourd'hui à des problématiques futures. Et peut-être c'est aussi les interventions qu'on fait aujourd'hui qui devraient avoir cet aspect-là, de se dire, ah, on n'a pas besoin de tout détruire et reconstruire. On regarde déjà ce qu'on a et on intervient dans juste là où c'est vraiment strictement nécessaire.
Et alors, je voudrais revenir sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure quand tu prenais l'exemple d'un immeuble où à une époque, la famille bourgeoise était au premier, les chambres de bonne au dernier, et que les choses ont changé. Comment tu vois la ville de demain sur la question des ségrégations sociales? Peut-être que le terme est un peu fort, mais en même temps, peut-être pas. Parce que aujourd'hui, on sait très bien que entre la ville centre et la ville périphérique autour, ou entre les immeubles de tours, etc., on a une ségrégation sociale. Oui. Comment on peut penser la ville de demain?
La question d'égalité, en fait. La question d'égalité dans la société est, pour moi aussi personnellement, mais réellement aussi une question qui dépasse la question de ce qu'on peut faire en architecture, en fait. L'architecture participe, dans un certain sens, à atténuer ou à rajouter, en fait, à cette inégalité, mais elle peut pas être la seule responsable, en fait. Et donc, moi, j'étais un peu gêné par les projets en rue, par exemple, qui existent encore.
C'est
mais...
l'Agence nationale de rénovation urbaine.
Oui, voilà, où on détruisait des immeubles sous prétexte que... c'était pas toujours un prétexte, c'est pas, je critique pas comme ça, mais on avait l'idée comme si c'était la forme urbaine qui était la cause des problématiques sociales. C'est aller trop loin, en fait, parce que on va pas résoudre les problématiques sociales en détruisant des tours et en mettant des personnes dans un autre type de logement si à côté on n'a pas réussi d'intégrer voilà, on peut aller très loin, et aussi l'intégration des quartiers dans le tissu urbain existant, ce qui est vraiment de l'ordre de l'architecture et de l'urbanisme. Donc je crois qu'il faut considérer cette complexité depuis le départ et pas chercher des solutions un peu trop simples et c'est rabattre quelque part sur la forme urbaine, parce que pour moi, par exemple, à l'époque, je suis allé à Londres, à un moment donné, je ne sais pas si tu connais le Barbican Center, c'est un ensemble de bâtiments des années 60-70, un exemple vraiment de ce modernisme en architecture, comme ça, de urbanisme moderne, qui, en quelque sorte, est vraiment c'est les formes urbaines qu'on retrouve dans les villes nouvelles autour de Paris. Mais là-bas, c'est les appartements les plus chers de Londres aujourd'hui parce que il se trouve qu'il est dans un quartier, c'est très bien en central
et
c'est bien desservi, bien entretenu aussi. Il y a voilà, donc personne ne propose de détruire le Barbican Center ou personne ne dit ah dans le 15e arrondissement il faut détruire des tours. Parce que c'est le problème, c'est les tours. Ouais. Donc il faut faire un petit peu attention par rapport à la responsabilité ouais, des formes en architecture par rapport à des problématiques sociales. Mais il y a quand même, les architectes ont joué un rôle très important en fait dans la qualité de vie qu'on peut mettre en place pour pour les personnes pour lesquelles les bâtiments sont construits en fait. Donc il faut vraiment toujours avoir en tête quelque part de défendre l'intérêt de ceux qui vont habiter dans les logements. Et c'est pas toujours facile parce que la pression économique dans la construction est telle que souvent les qualités spatiales vont passer derrière les intérêts économiques de ceux qui construisent. Et c'est souvent les architectes qui sont les seuls pour se battre pour ces qualités spatiales. Et on a tous fait des études, comme ça on a appris des choses à l'école, et après quand on est confronté à une réalité de construction de notre vie professionnelle, on s'en rend compte que c'est un monde difficile où les personnes ne sont pas forcément considérées, c'est plutôt les investissements qui viennent d'abord.
Et quand tu parles de qualité spatiale, ça me fait penser à un truc que tu m'expliquais quand on a échangé avant, c'est que tout à l'heure on parlait d'une lisière de tierce-forêt, l'importance des arbres qui à la fois qui procurent de l'ombre, l'évapotranspiration, etc. Et tu me disais que des études ont montré, d'ailleurs je suis allée vérifier tes informations, et c'est vrai que l'arbre, en fait, il y en a beaucoup plus dans les quartiers riches, et que cette question d'égalité et de porter le même soin à chaque habitant de la ville, aujourd'hui, on le mesure aussi en comptant tout simplement le nombre d'arbres dans un quartier. Donc, dans la ville de demain, il y a aussi un défi lié à cet écosystème à rééquilibrer.
Oui, exactement. Oui. Il y a une corrélation entre le nombre d'arbres et le revenu moyen d'un quartier. Partout dans le monde, en tout cas dans les villes occidentales. Et la raison est parce qu'on considère que la végétation en ville, c'est de l'agrément. C'est quelque chose qu'on rajoute à la fin, une fois qu'on a construit tout le reste. Et après, on peut embellir en plantant des arbres. Donc finalement, ça, il y en a plus dans des quartiers qui sont plus aisés. Et ce rééquilibrage, aujourd'hui, peut se faire. En tout cas, nous, on défend ça chez nous, chez Fieldwork Architecture, en disant que les arbres, ce n'est pas de l'agrément, c'est de l'infrastructure en ville. Ils sont totalement nécessaires pour le bien-être des personnes. Ils jouent un rôle sanitaire de lutte contre la chaleur.
Dans cette ville de demain, donc on a parlé de la densité, de la pensée comme un écosystème. On a parlé d'égalité. Et par contre, on n'a pas du tout parlé des technologies, alors que quand on parle de la ville de demain, les premières choses qu'on voit sur Internet, par exemple, c'est la fameuse Smart City, oui, que je considère personnellement un peu comme étant un mythe ou un trompe-l'œil. Mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que oui, la Smart City, on voit des grandes tours, des voitures autonomes, des objets connectés partout. Toi, est-ce que ça fait partie de ton imaginaire de la ville de demain?
On ne va pas revenir en arrière. La technologie, c'est quelque chose qui nous fait avancer, qui nous a facilité la vie. Moi, je cherche pas à me dire d'imaginer un sort de retour en arrière où on va tous vivre une vie plus simple sans technologie. Personne ne le veut vraiment, je pense. Donc, je trouve que la technologie fait totalement partie de la ville que nous sommes en train de faire, et elle peut aussi aider à résoudre des problématiques, notamment sur la question de compréhension en fait de quelles sont exactement les sur les données, c'est-à-dire sur récupérer les données très précises, par exemple de niveau de pollution, de niveau de chaleur, aussi de quantité de gens à certains endroits, pour pouvoir adapter plus finement les réponses au lieu de faire des réponses comme ça très généralistes. C'est le big data quelque part. Avant, on n'avait pas accès à cette connaissance et je pense que ça peut vraiment nous aider à mieux faire. Après, il y a un autre aspect de la technologie qui, pour moi, il faut prendre en compte, c'est la question quelque part de la fragilité de ce système. La ville, c'est quand même quelque chose, ou la construction en général, c'est quelque chose qui est fait avec des matériaux durs, qui doivent durer dans le temps, qui pèsent lourd, qui sont là aussi pour résister à tout type de sollicitations. Hein, et ça se fait par des moyens qui n'ont pas tellement changé. Les toitures, hein, ben, c'est toujours un peu les mêmes matériaux que depuis des siècles, oui. Enfin, peut-être la dernière très grande invention, c'était le béton armé du début du siècle dernier. Je suis un peu dubitatif sur l'intégration des systèmes très, très fragiles, électroniques, dans la construction. Et j'ai un peu un exemple comme ça qui vient par mes origines. Enfin, moi, je viens de Slovénie et il y a quelques années, il y avait une catastrophe naturelle qui s'est passée en Slovénie. Il pleuvait et d'un coup, il y avait du vent frais qui arrivait et tout a gelé comme ça sur une région petite, hein, de la taille d'une ville. Tout d'un coup, il n'y avait plus d'électricité. Tous les trains, ils étaient bloqués. Les voitures, elles étaient sur une couche de glace de plusieurs centimètres. Tout ce qui était métallique a été recouvert de glace parce que c'est le métal en fait qui s'est refroidi en premier. Donc il y avait la condensation et après ça a gelé sur toutes les parties métalliques et les personnes se sont retrouvées dans une situation qui les a quelque part envoyés un peu en arrière parce que tout ce qui était électronique était détruit, mais tout le reste, il n'y avait aucun problème. On était très confortable chez soi si on avait un poêle à bois ou si on avait une autre façon de se chauffer. Mais si on avait des radiateurs électriques, ben tout d'un coup, on était au froid. Et l'architecture n'a subi aucun dégât, les toitures ou les murs ou tout. Finalement,
ouais, donc quelle place on donne à cette fragilité dans la ville? Parce que c'est vrai que la Smart City propose une ville où c'est un peu la définition de la Smart City, où sont l'utilisation des objets connectés qui doivent apporter la qualité de vie, l'efficacité des services, etc., des services publics, etc. Donc ça serait asseoir le fonctionnement de la ville. Oui. Sur une fragilité qui est peut-être pas à toute épreuve, quoi.
Bah oui, on s'expose en fait à voilà, on se rend fragile dans un monde qui ne deviendra pas plus simple. Ça, c'est aussi une réalité qu'on doit tous intégrer et notamment en architecture, il y a des choses à inventer à ce sujet. On sera confronté avec un milieu plus difficile à gérer. Où on ne le gère pas en réalité, avec un milieu dans lequel on va devoir trouver
à s'adapter et
ne pas être exposé à une fragilité qui vient nécessairement avec les nouvelles technologies. Donc, je crois qu'il faut jouer sur les deux tableaux en fait, prendre ce qu'il y a à apprendre des nouvelles technologies pour nous faire avancer, mais en même temps se rendre compte en fait que c'est pas ça qui va être la solution pour les problèmes. Moi, je suis assez... je trouve qu'il y a aussi une valeur quelque part quand le soir, tu veux fermer tes volets, d'aller là-bas et tourner une manivelle et fermer le volet. Il y a aussi quelque part presque un plaisir, en fait, d'avoir cette capacité physique d'interagir avec le monde, en fait, et de ne pas être dépendant d'une mise à jour qui s'est mal installée sur le système des volets. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve à avoir des volets ouverts pendant 2 semaines parce qu'on n'a pas réussi de trouver le problème dans une boîte noire qu'on connaît pas.
Comment chaque être humain garde une mainmise physique, en fait, sur les dispositifs qui sont autour de lui? Ça, c'est une question vraiment importante dans la vie de demain. C'est passionnant tout ce qu'on se raconte. En 2050, tu vivras en ville, André?
Je pense que beaucoup d'entre nous vivront en ville en 2050. Hein. Oui, ouais. Je vis en ville. C'est un peu un choix que j'ai fait. Je ne viens pas forcément de la ville. J'ai peut-être une sensibilité aussi autour de la nature parce que j'ai grandi dans les Alpes et j'étais très proche comme ça de ces rythmes naturels ou de la nature dans le sens où la nature ne représente pas quelque chose d'uniquement romantique, mais elle peut aussi être très hostile et il faut avoir une distance et un respect par rapport au monde qui n'est pas en dehors du milieu que nous avons construit. Et je trouve que c'est plaisant, en fait, qu'il faudrait retrouver ça. Ça rapporte vraiment un bien-être, quelque part, de s'exposer à l'inconnu et d'être fragile.
De ne pas toujours être l'humain tout-puissant qui domine. Oui. Sortir de ce rapport de domination à la nature.
Oui. Ouais. Parce que c'est toujours une illusion, en fait. Parce qu'après, on s'ouvre à une déception comme ça, où on peut se dire, on n'a pas réussi de gérer. Peut-être c'est plus simple de se dire, non, mais c'est un milieu de... on a une planète comme ça, on vit sur cette planète et il faut trouver le moyen, comment on va y vivre pour qu'on s'y sente bien et que ça restera comme ça pour les générations à l'avenir aussi.
Alors pour conclure cette conversation, Drey, tu reviens de formuler un vœu pour 2050. C'est pas facile. Hein.
Oui. C'est difficile de se projeter en 2050 tout en sachant que on a tellement de problèmes à résoudre avant 2050, vraiment, et qu'il faut commencer avant. Donc peut-être mon vœu pour 2050, ça serait que la prise de conscience des questions environnementales et de suivre la science, en fait, qui nous dit qu'il faut agir aujourd'hui, a apporté ses fruits et que nous avons réussi de ne pas partir sur une pente glissante où on n'arrive plus à s'en sortir.
Merci beaucoup, Antéi. On se donne rendez-vous en 2050 dans une ville, en France, en Slovénie,
oui,
ailleurs dans le
exactement.
Monde, pour voir.
Merci beaucoup. Pour l'invitation.
Merci. À quoi ressemblera-t-elle, cette ville, en 2050 ? Moi, je me dis que j'aimerais pouvoir y ressentir le vivant, le chaud, l'imparfait, le drôle, le bancal, le sauvage. J'aurais peur d'une ville à l'organisation chirurgicale. C'est pour ça que les idées d'étonnement, de lâcher prise, de place à l'inconnu que convoque Andrei pour 2050 me séduisent vraiment. Et puis cette forêt, cette tierce forêt, je l'imagine. Et si tu fermais les yeux ? 2050, une ville dans un ailleurs. Tu cherches, comme moi, vrombissement, sirène, claquement de talons, rien. Alors, respire. Terre humide, un oiseau, deux, trois, lisière de forêt, une tierce forêt. Pas une forêt des siècles passés, nous les avons dévorés, digérer, transformer, jeter. Une tierce forêt bâtie pour rendre une ville vivante, vivable. Mais des arbres tout de même, là, vrais, lents, robustes. Pose avec moi la main sur cette première écorce, jeune, parfumée, douce. Ombre dansante derrière les paupières, une goutte de rosée. La toute dernière tombe ici et fait frémir les cervicales, et c'est tout le corps qui répond, se grandit et s'étire. Le feuillage cache presque totalement le bâtiment qui s'élève derrière, pierre blanche, grise, sale, dont la chaleur est perceptible d'ici. Mais l'oublier, lisière d'une tierce forêt, la pénétrer. Pieds, nus, bras, nus, bouche entrouverte. Respirez l'humus, respirez les chants d'oiseaux, respirez le froissement des herbes, respirez la sève et les racines entremêlées. Respirez profondément. ne pas ouvrir les yeux trop tôt. Comptez jusque 3. En 3 mots. Soyons toujours curieux.